bah, faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et là, j'ai vraiment concrétisé en fait le sens que j'avais donné depuis des dizaines d'années à mes travaux de recherche. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, finalement, ce que tu fais, ça peut peut-être être utile, quoi. Voilà.
L'émotion de la découverte. Le son et les émotions de la recherche. Émotion. Épisode 4. Sérénité.
Florent Laroche est maître de conférences à l'École Centrale et rattaché au LS2N, le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Lorsqu'il était encore en thèse, il a pu ressentir de la sérénité et il va nous en parler aujourd'hui.
La sérénité, c'est une émotion qui me semble importante en tous les cas en tant que chercheur pour pouvoir allier notre professionnalisme et nos convictions personnelles. On a la chance dans nos métiers, effectivement, de ne pas forcément avoir d'objectifs particuliers, hormis nos propres objectifs que l'on se donne. Pas non plus, finalement, de personnes pour juger nos objectifs, à l'exception de nos pairs et de nous-mêmes. Et finalement, être en accord avec ces convictions, ça me semble vraiment important.
C'est ce qui vous procure de la sérénité dans votre métier de chercheur ?
Tout à fait. Au quotidien, la sérénité tant dans les travaux qu'on fait, dans les projets qu'on met en place, mais également finalement dans le discours que l'on tient lorsqu'on fait une communication scientifique, qu'elle soit à destination des professionnels, donc des collègues chercheurs, ou bien même grand public pour valoriser ce qu'on fait. Eh bien, on se dit oui, bah en fait, t'as raison, vas-y, ose le dire, quoi. Tu peux te permettre de le dire.
Et pour redonner un petit peu de contexte, à quoi ça ressemble votre quotidien ? Quelles sont les pratiques que vous avez, les outils que vous utilisez qui pourraient du coup peut-être vous apporter cette sérénité ?
Oh là là, alors disons qu'au quotidien, moi mon outil de travail c'est mon téléphone, mon ordinateur, voilà. Puisqu'effectivement dans le cadre de nos projets de valorisation et surtout de conservation de notre patrimoine scientifique, technique et industriel, on utilise tous les outils du numérique, des sciences de l'ingénieur, pour pouvoir faire revivre virtuellement un petit peu ce patrimoine. Allez, je pousse à l'extrême un peu comme un jumeau numérique. Voilà, j'aime pas le terme de jumeau numérique parce qu'on ne peut pas avoir un double numérique parfait. Le virtuel et le réel sont deux choses totalement différentes. Et la réalité, en plus, a cette particularité qu'elle est unique. Donc, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de virtuel. Pour autant, on essaye de s'y approcher. Au quotidien, voilà, on produit de nouvelles images. On va créer des bases de données avec des connaissances et du savoir-faire qu'on va encapsuler à l'intérieur.
Dans le cadre, du coup, justement, de ces bases de données, de cette d'encapsuler toutes ces données, toutes ces valeurs du patrimoine numérique, culturel et scientifique. Cette sérénité, à quel moment est-ce que vous l'avez rencontrée ?
Alors ça, c'est une bonne question. En fait, ce que je vais vous raconter est une vraie anecdote. Je ne l'ai pas racontée souvent. J'ai soutenu ma thèse en 2007, hein, donc ça fait un petit moment déjà, mais le travail d'écriture du manuscrit est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors c'est vrai qu'en sciences de l'ingénieur, on a l'habitude de nous décrire le manuscrit à l'issue de notre thèse de doctorat, contrairement souvent aux sciences humaines où on va commencer l'écriture dès le début de la thèse. Tout ça pour dire que je me suis dit, allez, pendant 2 mois, tu fais ton ermite, c'était l'été, en gros, juin, juillet, août, et tu produis ton manuscrit pour qu'il sorte en septembre et que je soutienne avec toutes les procédures administratives. J'ai soutenu au mois de décembre 2007. Et j'avais terminé l'écriture de mon manuscrit, sauf l'introduction et la conclusion, et puis une petite préface également que je voulais réaliser pour expliquer un petit peu ces travaux de recherche. Et comme beaucoup de fois dans notre métier de chercheur, on n'est pas forcément assis derrière un bureau à se dire « Allez, trouve une idée, réfléchis, pense, trouve une solution ». En fait, c'est en discutant avec des gens, c'est en rencontrant d'autres gens, c'est en marchant dans la rue ou en étant ailleurs qu'on a l'idée géniale. Je ne dis pas que j'ai eu une idée géniale, mais je me suis dit « Bon, allez, change de ton cadre pour pouvoir écrire ces quelques pages ». Et j'avais un cas d'étude avec le musée des Marais Salants à Basse-sur-Mer. Je me suis dit « Allez ». Tu connais Basse-sur-Mer, c'est un lieu qui est chouette. Donc c'était un vendredi, j'ai pris le TER en vélo, je suis allé à Basse, j'ai fait 500 mètres, je suis arrivé sur la plage où il y a une petite crique et un restaurant-bar où je me suis installé en terrasse pour boire un café. Et là, j'ai eu une espèce de révélation ou d'émotion en fait, où je me suis dit « mais en fait c'est ça ». Et il y a un vulgarisateur que j'aime beaucoup, un vulgarisateur scientifique qui s'appelle Louis Figuier. Il était écrivain et vulgarisateur à la fin du 19e siècle. Et Louis Figuier, en fait, il a écrit, entre autres, un ouvrage qui s'appelle « Les merveilles de la science », qui est en 4 tomes et 2 annexes, dans lequel il a décrit en fait toutes les innovations technologiques scientifiques, et quelles que soient les disciplines, c'est-à-dire sciences de la nature, révolution industrielle, machines à vapeur, techniques, tout y passe. Et puis il décrit comment fonctionne une machine, il décrit avec un petit schéma, et puis surtout il essaye de justifier un certain nombre de choses. Et en fait, dans une de ces pages-là, Louis Figuier nous dit, je vous citais ce qu'il a dit parce que franchement ça m'a marqué, il a dit « Lorsque l'utilité des travaux de ce genre sera mieux appréciée qu'elle ne l'est encore, d'autres écrivains compléteront cette tâche en embrassant l'ensemble tout entier des conquêtes scientifiques de notre époque et ainsi seront sauvés de l'oubli des monuments précieux qui seront un jour les vrais titres de gloire de l'humanité. » En fait, il a écrit ça en 1896 et je me suis dit, mais en fait, ce que toi, tu fais à capitaliser des connaissances anciennes pour essayer de construire un monde meilleur demain, ou en tous les cas, pour éviter qu'on réinvente la poudre et proposer ce savoir-faire pour faire différemment demain, eh bien oui, en fait, ça s'inscrit un peu dans la continuité de ces vulgarisateurs scientifiques. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, finalement, ce que tu fais, ça peut-être être utile, quoi. Voilà.
Votre vision de la recherche et de votre travail, de ce que vous vouliez faire, vous l'avez complètement retrouvé dans ses écrits. Ça vous a poursuivi, ça vous a remotivé pendant toute la suite de votre carrière ?
Exactement. Et alors, c'est vrai que dans ma thèse, j'ai donc encadré mon manuscrit avec justement 2 textes de Louis Figuier. Et j'ai fait pareil dans mon habitation dirigée des recherches en 2017, où j'ai également cité Louis Figuier. Et je cite aussi assez souvent Louis Figuier dans mes conférences, parce que voilà, ça permet de me dire, mais en fait, on n'est pas tout seul à faire ce type de travaux. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je pense que je suis un espèce d'épiphénomène parmi d'autres. Quoi. On est quelques-uns en France à avoir cette double casquette, sciences de l'ingénieur, histoire des sciences et des techniques. Et finalement, ce qu'on fait, ça peut quand même être utile. Voilà.
Et cette sérénité acquise au moment où vous finalisiez votre mémoire de recherche, est-ce que vous la retrouvez encore aujourd'hui dans votre travail au quotidien ? Est-ce que vous avez peut-être besoin de vous le rappeler de temps en temps ? Pourquoi est-ce que vous faites ce travail ?
Alors, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, je ne me l'étais pas posé en tant que tel en me disant « Tiens, finalement, grâce à Figuier, je continue depuis maintenant 14 ans que je suis maître de conférence à être alimenté avec cette déontologie ». En fait, non, pas du tout. Je crois qu'en fait, il y a une petite graine qui a été plantée et qui a continué à germer. Et c'est quand, il y a quelques semaines, je me suis posé la question en me disant « Mais oui, quel est-ce qui me tient vraiment à cœur en ce moment et comment je veux voir les choses pour demain ?» C'est vrai qu'avec 2020 qu'on a traversé, qui était un petit peu particulier, faut trouver du sens à ce qu'on fait. Et là, j'ai vraiment concrétisé en fait, le sens que j'avais donné depuis des dizaines d'années à mes travaux de recherche.
Eh bien, Florent Laroche, on vous souhaite encore beaucoup de sérénité pour les années à venir. Et je vous remercie d'avoir accepté de nous raconter cette belle anecdote.
Merci beaucoup pour l'invitation et puis belle fête de la science pour ces 30 ans du coup.
Eh bien, belle fête de la science à tout le monde.
Vous avez écouté Émotion, un podcast du Labo des Savoirs produit à l'occasion de la fête de la science 2021. L'ensemble des épisodes est à écouter sur emotion.lepodcast.fr et sur labodessavoirs.fr. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.